Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Invino Sud Radio. Nous sommes comme tous les dimanches chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio, par exemple à Valence sur 95.1. Vous retrouvez également l'actualité sur notre page Facebook Invino et le compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure David Quilin qui est ambassadeur de marque de la cave de Tain. Nous serons dans la vallée du Rhône et puis le Vino Quiz. Pour gagner un coffret Divine et Civère, œnologue expert de la marque Chef et Sommelier, en jouant sur invinoradio.tv. Ici à mes côtés, comme hier, on retrouve Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
Bonjour
tout
à tous.
Tout va bien depuis hier?
Eh bien, tout va parfaitement bien.
Et puis Philippe Forbach, président de Lyon, la sommellerie française. Philippe, vous avez dégusté des bonnes choses hier soir, tout va bien?
Oui, c'était magnifique.
Alors, pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Jean-Luc Coupé, président de Wine Bankers et fondateur du domaine de Vénus. Nous sommes dans le Roussillon. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Alain.
Alors, vous avez une double casquette, hein, vigneron et puis businessman. Alors, on commence par le côté vin, notamment dans le Roussillon. Racontez-nous le début de cette belle histoire d'amour avec le domaine de Vénus.
C'est d'abord l'amour du vin et l'amour des vins d'une grande finesse de plusieurs régions. Et comme j'aime goûter, comme j'aime partager et comme beaucoup d'amis voulaient me suivre, puis on a commencé par aller sur les hautes vallées du Roussillon où j'ai eu l'occasion aujourd'hui
de goûter
des choses.
Un peu par hasard ou pas?
Ah non, pas totalement par hasard.
C'est-à-dire parce que c'est un peu le Felouillé, ça ne s'invente pas quand même. Hein.
C'est le bout du monde, mais quel bout du monde. C'est-à-dire que c'est vraiment l'altitude, c'est la fraîcheur, c'est venteux. On arrive à voir des très vieilles parcelles. La CAFCOP était relativement importante. Beaucoup de gens ont quitté la CAFCOP à ce moment-là. Et après avoir goûté des vins qui étaient vraiment de très très belles tenues, eh bien, on a décidé de nous-mêmes d'acheter quelques parcelles et de commencer.
Donc combien d'hectares au tout début?
Au début, en 3-4 achats, on a eu 6 hectares sur des rendements moyens de 15 hectos. Donc c'est très très peu, mais on n'avait rien d'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cave, il n'y a pas de marque, il n'y avait rien, donc il a fallu qu'on crée tout.
C'était en quelle année ça?
Hiver 2002-2003.
Oh là là, alors le Roussillon, combien d'hectares aujourd'hui?
34, dont 27 productifs, toujours à Saint-Paul-de-Fenouillet pour 80% et un petit peu sur les hauteurs de Maury, puisqu'on a fini par trouver notre propre cave.
À Maury,
sous le château de Quiribus, c'est la cave la plus en hauteur de Maury.
Les cépages, qu'est-ce que vous avez comme cépages dans cette belle région, légèrement vantée parfois?
Très vanté, 320 jours de vent par an, ce qui malheureusement contracte un peu les rendements. Les blancs surtout, grenache gris, grenache blanc, macabeu, un peu de carignan blanc et un peu de vermentino qu'on a planté. Et puis sur les rouges, le trio magique, Syrah, grenache, carignan. Mm-hmm. Et là, des Syrahs qui donnent de mieux en mieux. Et un boulot très très long. À chaque fois qu'on achetait des parcelles, elles n'étaient pas bio, comme nous sommes bio-certifiés.
Et oui, donc il faut retravailler.
Toute la conversion, donc un coup de stress.
Votre blanc, moi j'avoue que j'ai un coup de cœur pour votre blanc, je trouve qu'il est délicieux. Il est reconnu comme tel ou je suis le seul à l'aimer?
On est reconnu comme étant quand même l'un des grands blancs du Roussillon.
Philippe Forbach, les vins blancs du Roussillon. On parle souvent des vins doux naturels, on parle régulièrement des rouges également. Mais il y a une petite pépite, si je puis dire aussi. C'est très bon, les vins de la région en blanc.
Ouais, on redécoupe ça, et c'est vrai que Jean-Luc Coupé vient de le dire. L'encépagement est intéressant, notamment le macabeu qui donne vraiment des personnalités au vin, et le grenache gris aussi, qu'on oublie derrière le blanc. Alors le vermentino est invité un peu surprise, quelque part. C'est une volonté novatrice de s'orienter vers quelque chose qui est original, exactement, qui permet d'aller chercher un peu de fraîcheur, parce que finalement, il y a du vent, on contracte effectivement les rendements.
Mais il fait chaud quand même, quoi.
Il fait chaud quand même. Donc, et pour les blancs notamment, la clé, c'est l'acidité, quoi. Pour faire parler la minéralité, je mets ça entre guillemets, mais en tout cas, donner cette fraîcheur qui rappelle un peu la minéralité, certes schisteuse pour l'essentiel là-bas, il faut des cépages qui le portent. Et le vermentino est un...
Et alors, Jean-Luc, vous connaissez bien le domaine des vins et spiritueux, on va en parler tout à l'heure, mais quand vous avez acheté le domaine, vous étiez un néo-vigneron, et votre pire bêtise et votre meilleur souvenir au tout début
Alors, la pire bêtise, c'est la bêtise de la dimension en fait du domaine. En fait, on s'est trompé sur les perspectives de rendement hecto-hectare parce qu'en fait, on est dans une vallée très venteuse et qu'on a des pertes en ligne, que la conversion au bio nous a encore fait perdre des rendements et donc on s'attendait à faire du 25 hecto-hectare qu'on n'a jamais atteint.
Jamais.
Donc on est.
Ce qui est déjà petit. Hein.
Oui, c'est déjà petit. Mais bon, voilà, on est sur un rythme de 15 en ce moment. On pense franchir la barre des 20. Le travail sur la vigne est titanesque depuis des années, mais ça fonctionne. On travaille très très bien. le vignoble avec une équipe qui était patente, un couple qui nous a rejoint. Mais voilà, le travail de bio est quand même très exigeant et on a eu des années avec des grands trous, les incidents climatiques n'ont pas rangé.
Et ça, c'est important aussi pour les auditeurs. Il faut valoriser les produits, il faut que tout le monde vive avec des tout petits rendements. Absolument. Comme ça. Il faut vendre les vins quand même à un prix raisonnable. Autrement, les vignerons sympas de cette belle région notamment et d'autres risquent de disparaître. Alors, vous avez également investi en Bourgogne ?
Oui, exact. Bah, la même année, savoir, en fait, il y a eu l'opportunité qui était à la fois de retourner sur des traces familiales bourguignonnes et de se retrouver à avoir à la fois la maison à Volnay, le clos qui était en dessous, et puis de s'associer avec un ami que je connais depuis de très longue date. Et nous avons ensemble repris, dans les mois qui ont suivi, une affaire qui va être bicentenaire dans 3 ans.
C'est beau, ça.
Et qui nous permet d'avoir des vignes. On a entre-temps trouvé des vignes. Maintenant, on ne peut plus en acheter, malheureusement. Les vignes sont beaucoup trop chères.
Trop chères, quoi.
Et par contre, on a trouvé quelques fermages. Donc, c'est une petite maison qui fait 100 000 bouteilles.
Il y a des synergies entre le Roussillon et la Bourgogne ou
assez
pas
peu.
Assez peu.
Ouais, ouais,
ouais,
comment s'appelle l'ami ? C'est secret ou
ah non, ça s'appelle, c'est la maison Seug Emmanuel et c'est dirigé de manière très talentueuse par celui qui a la valeur ajoutée, qui a tout le talent, qui est Thibaut Marion, qui est le
fils que l'on salue.
Des Marion et qui fait la vigne, le vin et le vent.
Alors allons-y, deuxième vie avouable pour vous, Jean-Luc, hein, les autres, ça n'intéresse pas. Wine Bankers, alors vous êtes spécialiste des fusions acquisitions dans le domaine des vins et spiritueux depuis longtemps. Vous avez débuté chez Rothschild, c'est ça ?
Il y a 35 ans.
35 ans, donc, bah, vous ne les faites pas.
Merci, mais il paraît que je suis beaucoup plus jeune que mon âge. Mais donc,
mais comme Hélène et comme Philippe.
Voilà, exactement.
Surtout à la radio, ça s'entend.
Ouais, ça s'entend bien.
Le vin, ça conserve.
Deux verres de vin par jour, hein, sur ton attitude.
Mais on peut en témoigner.
Merci. Et donc, il y a 35 ans, j'ai débuté par cette passion et j'ai la chance de vivre le jour et la nuit, heureux de mon métier et avec des produits que j'aime et des gens que je croise et qui sont des gens merveilleux dans le vin, parce que le vin, c'est avant tout une grande convivialité.
Alors, Philippe, tout le monde rêve, tous les auditeurs rêvent peu ou prou d'acheter un vignoble, de devenir vigneron. Est-ce qu'il faut un diplôme pour devenir vigneron ?
Pas que je sache. Alors, je pense que pour acheter un vignoble, non. Après, pour faire du vin, il vaut mieux se former.
Oui.
Et là, le diplôme, peut-être, il est bienvenu, comme on dit.
Oui,
Oui, mais enfin, je pense quand même que le banquier ne me contredira pas. Il vaut mieux être un peu formé aussi pour acheter un vignoble au départ. Je crois que c'est mieux que de se lancer en disant « Bonjour, j'ai des sous, j'achète ». C'est bien de savoir un peu ce qu'on achète, quand même.
Et Jean-Luc, nous connaissons avec Jean-Luc depuis quasiment l'origine de sa carrière dans le monde du vin, et notamment chez Rothschild, la compagnie financière, puisque nous avions créé ensemble, d'ailleurs, le cercle œnologique de la compagnie financière de Rothschild, qui se réunissait au bistrot du Sommelier régulièrement.
Donc, très bel établissement. Hein.
On a souvent eu l'occasion d'échanger, de rencontrer des gens qui ont mis quand même beaucoup d'argent dans la vigne, pas toujours avec beaucoup. La plupart du temps, conseillés par Jean-Luc Coupé, ils ont réussi, il n'y a pas de souci.
Merci.
Mais
alors, les autres conseillés par les autres.
De toute façon, c'est un investissement passion, plus qu'au départ se dire on va faire beaucoup d'argent.
Parce sous,
que c'est tout ce que pour faire un millionnaire, il faut être milliardaire quand on fait un vignoble. Donc ça peut marcher, bien entendu, mais c'est peut-être pas la motivation de tous les investisseurs, en tout cas.
Oui, pas tous. Quoi. Alors, Rothschild, après UBS, et puis vous créez votre propre boutique, comme on dit.
Il y a 12 ans.
Il y a 2 ans. Quoi.
Non, 12 ans. 12
ans. Oui, 12 ans. Et donc, combien de transactions avouables et inavouables d'ailleurs en 12 ans
Je vais pas dire qu'on le compte plus, mais on est au-delà de 250 depuis que je bosse. Mais au total, mais on est, au-delà de 60-70 depuis qu'on est indépendant.
Ouais. Alors, vous êtes spécialiste des fusions-acquisitions, spécialiste de toute l'économie du vin également. Les terroirs, tiens, chez vous dans le Roussillon par exemple, le prix de l'hectare à titre indicatif. Combien ça vaut à peu près, hein, un hectare d'une vigne en bonne santé, on va dire, voilà.
En bonne santé sur un bon terroir, sur une bonne implantation, ça peut aller jusqu'à 15 000 euros.
Voilà, donc c'est plutôt entre 10 et 15 000 euros.
C'est entre 10 et 15.
Et la même chose en Bourgogne.
J'allais poser la question.
Ah bon. Du terroir.
Vous me parlez de la bouche.
Est-ce que Jean-Luc peut avouer un peu les différentes transactions dont il s'est occupé
Alors,
et à quel
oui,
prix
Oui, il y en a un certain nombre. Non, mais il y a un certain nombre.
On le sait, on les connaît.
Que ce soit à Bordeaux ou en Grand Cru Classé, on a eu l'occasion de s'occuper encore assez récemment de Trolomondo ou encore de revendre les propriétés de François Pinault sur la rive droite en Grand Cru Classé de Saint-Émilion et à Pomerol, par exemple, au groupe Arkea qui possède Calon-Ségur. Et là, on est en train de boucler une belle opération en Bourgogne. Mais alors, oui, l'écart des prix est gigantesque en Bourgogne. C'est la pente la plus sévère qui existe dans le monde du vin.
1 million ?
Alors, on démarre à moins de 100 000 hectares sur
la Bourgogne de base,
quoi, et les Hautes-Côtes. Alors, bien évidemment, certaines grandes pépites de Bourgogne, et on leur souhaite de rester indépendantes, j'espère, ne feront pas l'objet de transactions, mais pourraient dépasser des sommes hallucinantes. Pour l'instant, ce qui est répertorié, ce que l'on voit passer, c'est des sommes qui vont de 75 à 100 millions d'euros l'hectare.
Et le record, c'était combien à l'hectare ? Le record.
Le record, ben, en ce moment.
Pour un hectare, hein, après on verra
le record pour un hectare, en ce moment, ça se passe, je dirais, sur les Batard Montrachet, où on est. Ouais. Des transactions sont substantiellement de la 3 millions d'euros l'hectare.
3 millions d'euros l'hectare. Ouais. Donc c'est le même hectare dans le Roussillon.
Pardon, 3 millions d'euros louvrés, pardonnez-moi. 3 millions d'euros louvrés.
Donc un hectare, alors, c'est combien?
C'est-à-dire, on est à 75-80 millions l'hectare.
75-80 millions pour un hectare.
Et louvré, c'est
428 mètres carrés.
Voilà, 0,24.
Ouais, c'est tout petit, quoi.
D'un hectare.
À ce prix-là, on chasse les corbeaux qui bouffent les raisins en bazooka, non?
Ah oui, mais alors, pour le coup, on fait des sons de...
C'est pas très bio, mais... Et est-ce qu'il y a encore, selon vous, des bons plans? Je sais pas, la Loire, le Bordelais, c'est... Alors, on a parlé du Roussillon. Est-ce qu'il y a des régions sur lesquelles c'est pas encore trop cher, mais ce sont des terroirs d'avenir, selon vous, Jean-Luc?
Alors, il y a déjà, puisqu'on parlait de Bourgogne, des bons plans encore en Bourgogne. Aujourd'hui, c'est vrai, les côtes, enfin, la Côte d'Or, principalement, sont hors de prix. Même nous, on n'arrive plus à trouver des parcelles pour développer le domaine. Ouais. Par contre, en Côte Chalonnaise, on a encore des possibilités de faire des choses bien. Et aujourd'hui, quand on regarde la consommation des vins en France principalement, rares sont ceux qui s'offrent des grands crus à table pour les déjeuners d'affaires ou pour les grands dîners. Les premiers crus, éventuellement, et en fait, la Côte Chalonnaise tire bien les marrons du feu en ce moment sur des mercurets, des rudis, des maranges ou des vins de cette nature. Ça, c'est des choses qui marchent.
Et Philippe Orbach, donc ce sont des vins qui sont bons aujourd'hui, qui risquent de monter, si on parle de côte, on va dire, en termes de qualité et de prix donc à l'hectare?
Oui, bien sûr, la qualité est là parce qu'il y a des terroirs qui sont très correct. Et puis après, c'est la façon dont on fait les vins. Hein. Si on maîtrise les rendements, si on a envie de faire des vins et si on arrive à les valoriser surtout derrière, il n'y a pas de raison que les vins soient
bon. Et pour terminer, alors les Chinois qui achètent tout là, ils sont retournés chez eux ou pas?
Écoutez, pour l'instant, nous, des Chinois qui achètent tout, on ne les voit pas. On en a vu déjà très peu dans des carrières. Ils ont surtout acheté des petites choses avec des petits montants qui...
Des trucs quoi, à 5 millions d'euros, enfin, pas des gros trucs. Quoi.
La moyenne est même inférieure.
Ah, inférieure.
Il y a eu plus d'une centaine de transactions et la moyenne est inférieure à ça.
Ouais.
Il y a eu 2-3 belles transactions pour des montants supérieurs, mais c'est tout. Ce qu'on voit en ce moment, ce sont des investisseurs plutôt d'origine singapourienne qui montent des clubs d'investissement et qui font flamber les vignes un peu dans tous les sens, malheureusement, qui assèchent le marché, qui perturbent beaucoup les propositions exploitants qui veulent récupérer des vignes, mais à part ça, des Chinois, on en voit très 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 peu aujourd'hui.
La plupart sont, donc le péril sont... jaune dans le rouge, vous êtes tranquille pour
serein,
l'instant.
Serein, espérons que les vignerons continueront à pouvoir acheter eux-mêmes les vignes pour se développer.
Merci beaucoup Jean-Luc Coupé. Il y a un site internet peut-être pour le domaine de Vénus, si on veut savoir plus sur le vin.
Il y a un site internet sur domainedevenus.com, Winebankers en a un, la maison Seguin Manuel, un site internet également, donc on peut se retrouver.
Merci Hélène et Philippe Forbach, on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas pour le Vino Quiz et puis gagner des coffrets divers. Et six verres à vin, chef et sommelier.
Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à aller sur le compte à Instagram Invino Sud Radio ou Facebook pour nous annoncer vos différentes découvertes d'excellents vignerons. Philippe Forbach, c'est le moment du Vino Quiz.
Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret Divine et six verres œnologue expert de la marque Chef et Sommelier, appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table. Voici la question de ce week-end. Quelle est la seule appellation produite par Marie Pascot, propriétaire du château Pampelonne à Ramatuelle? Réponse A, Côte d'Auvergne. Réponse B, Côte du Rhône. Réponse C, Côte de Provence.
Mmh.
Pour répondre et gagner, on vous le souhaite, à ce coffret Divine et les six verres œnologue expert de la marque Chef et Sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site Invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Nous vous souhaitons d'être tirés au sort parmi des bonnes réponses.
Merci beaucoup Philippe Forbach. Invino sur Radio accueille maintenant David Quilin, qui est ambassadeur de marque de la cave de Thym. Bonjour David.
Bonjour.
Vous êtes situé où également? En Vallée du Rhône méridionale ou septentrionale?
Ah, septentrionale justement. D'accord. Qui compris entre Vienne et Valence en fait.
C'est une jolie région. Elle a été créée quand la cave?
La cave a été créée en 1933 par un fondateur et un humaniste qui s'appelait Louis Gambert de Loche.
D'accord.
Et Louis Gambert de Loche, pour la petite anecdote, était très copain avec le baron Leroy, et le baron Leroy ayant créé bien sûr Châteauneuf-du-Pape en 1936. Ils ont dû vider quelques bouteilles d'Hermitage ensemble, et création de l'appellation Hermitage en 1937, juste après.
Philippe Forbach.
Le baron Leroy qui était propriétaire du château Forcia, grande propriété s'il en est de Châteauneuf, qui a peut-être pas, David, qui n'a peut-être pas créé Châteauneuf-du-Pape, mais créé l'appellation Châteauneuf-du-Pape, bien avant 1936. Mais il n'était pas pape. Non, il ne s'appelait pas Clément, ni Grégoire, c'était juste le baron Leroy, mais on peut le considérer depuis le temps comme l'un des papes de la viticulture par rapport à ce qu'il a apporté, effectivement, notamment aux appellations françaises.
C'est l'heure de notre papesse, Hélène.
Tant que ça. Impératrice. Alors effectivement, on accueille aujourd'hui David qui est ambassadeur de marque à la cave de thym. Alors ambassadeur de marque, ça fait quoi au quotidien un ambassadeur de marque ?
Passe à la radio.
Ouais, ça passe à la radio, ça passe à la télé, ça fait des salons à l'international. Là, je viens d'être convié à Hospice du Rhône, une dégustation à Paso Robles, où je vais faire un show sur l'Ermitage justement devant 325 personnes à l'américaine. Lundi, je suis à Monaco faire une dégustation sur les Ermitages. Lundi prochain, je serai à Bordeaux. Enfin, voilà, je représente juste la cave de thym. Je ne vends rien.
Voilà. Alors, vous vendez l'image de la cave de thym. Ça ne vous fait pas peur, hein, parce qu'il faut quand même préciser à nos auditeurs, votre modestie dût-elle en souffrir, quelques hauts faits de votre CV qui est un petit peu hallucinant. À 15 ans, vous étiez déjà maître d'hôtel et sommelier au Club d'Europe de la JOCR.
Oui, absolument.
Un peu plus tard, on vous retrouve assistant cuisinier sur le Paris-Dakar. Vous n'avez même pas 20 ans.
Oui.
Je ne connais pas beaucoup des assistants cuisiniers sur le Paris-Dakar qui ont été maîtres d'hôtel à la JOCR à 15 ans. Encore plus tard, vendeur de grands domaines de Bourgogne chez Étienne Defay, chez Jean-Marc Brocard à Chablis, dans le groupe Boisset. Ouais. Et puis dans un endroit qu'on connaît bien, les boutiques de vin Nicolas en Grande-Bretagne. Vous avez également eu votre propre bar à vin. Vous êtes membre de l'Union des sommeliers français. C'est l'homme qui tombe à pic, votre CV.
Il était comment, Giroud ?
Il était super sympa. Mon grand-père était le relations publiques en fait de Gérard Bourgoin et de la JOCR Football.
Ah oui, Monsieur Poulet.
Voilà. Monsieur Poulet, exactement. Ah oui. Ma famille faisait partie de
des poulets.
Le duc de Bourgogne, tout ça. Mais on a vécu des superbes années. Je me souviens quand mon grand-père s'était battu toute la nuit pour faire introduiser Fidel Castro à l'époque que j'avais servi de midi. C'était
Fidel Castro. T'as introduisé à quelle heure ?
À Chablis, ouais.
Oh là 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 là.
J'ai un bon bout de temps et on avait bataillé toute la nuit pour qu'il soit intronisé. Il y avait des pour, des contre, évidemment, mais c'est une retentie. C'est mondial.
Incroyable.
Ce que vous dites, c'est pour moi que vous avez un grand sourire là.
Non, tout s'est décanté quand le chien est rentré dans.
Oui. Mais après, ça permet de pouvoir fourrer un petit peu de pétrole. Alors, allons-y, Hélène.
Alors, cette cave de thym, puisque voilà, j'ai oublié Chablis maintenant, vous êtes effectivement à la cave de thym.
Oui.
On disait tout à l'heure, hein, dans le nord de la vallée du Rhône, ce sont les Syrahs les plus septentrionales d'Europe.
Absolument, il y en a un petit peu en Suisse quand même, il faut le noter, qui est à l'origine du Rhône.
Ça existe, il y a du vin en Suisse. Non, je plaisante. Que nos auditeurs suisses ne me jettent pas des cailloux, il y a des vins magnifiques.
Non, absolument, il faut rappeler que la Syrah est originaire de chez nous. On avait une grande discussion avec une amie, Jantis Robinson. Mais en effet, la Syrah est bel et bien originaire du nord du Rhône, puisqu'on lui connaît les parents maintenant. Hein. C'est pas nous qui le disons, c'est l'Institut de vin de Californie, l'Institut Davis de Californie. Il y a eu 50 marqueurs, d'habitude sur 25 marqueurs ADN, on arrive à définir les parents d'un cépage. Là, pour être 100% sûr, ils en ont fait 50. Et c'est donc la Duresa, un vieux cépage rouge qui est de l'Ardèche, donc là où on a Saint-Joseph, Cornas, Côte-Rôtie, etc. Et la Vendeuse Blanche. Et nous, on est pile poil entre les deux. Voilà. Donc on sait exactement que la Syrah, originellement, vient de chez nous. Et ne vient pas de Syrah, Syracuse et tout ça.
Dommage pour les belles histoires.
Oui, oui. C'est un cépage qui date de quelle époque on le date, à peu près, l'origine
non,
de Syrah. Parce que sur des vieux livres de l'histoire de France,
oui.
On va marquer Syrah. C-I-R-A-S, ouais. Notamment sur Brézem, qui est une appellation aussi du département de la Drôme, pas très loin. Et donc l'orthographe a évolué parce qu'aujourd'hui on y a rajouté un Y, un H à la fin, etc. On se demande un peu cette orthographe bizarre.
Ouais, mais c'est un cépage à la mode, hein, qu'il est de plus en plus, quoi. Ça se maintient. Vous êtes le plus important producteur.
Ouais.
Hein.
Oui, on est le plus important producteur en appellation. En Europe, on est. Alors aujourd'hui, la cave de thym, pour vous donner quelques chiffres, c'est 1055 hectares sur un peu plus de 260 vignerons. Voilà. Aujourd'hui.
Au total, quoi.
Au total, ouais.
Alors, gérer une cave coopérative, c'est pas trop ça commence par un B, là, parce qu'il y a 250 personnes qui se prennent toutes pour des présidents. C'est chaud, quand même, non ?
J'ai 260 patrons, en effet. Mais on a des bureaux, on a des commissions
jeunes.
Vous
avez cloisonné 260 cloisons ?
Non, mais c'est super sympa, parce que notamment la commission jeune, là, je les salue, parce que bon, il y a eu un travail cette année aux vignes qui était incroyable. Ça pousse, ils nous ont amené des nouvelles méthodes de vinif, mais même les anciens nous font des repas.
Il y a une belle dynamique, hein.
Il y a une super dynamique.
Ouais, ça, c'est génial.
Ça veut dire. Quand ils veulent se foutre sur la tête, c'est pas très difficile parce que les vignobles les plus éloignés sont à 15 km de la cave. Donc au moins c'est pratique. Si on a un truc à dire à l'autre, on y va. Voilà, c'est franc et massif, vous voyez. Je veux dire, c'est l'avantage, hein, d'avoir des vignobles très très près de la cave.
Mais ouais. Philippe Urbach, c'est vrai que les caves coopératives, parfois à une époque, c'est une image qui n'était pas forcément terrible, quoi. Quand on voit certaines, alors si vous parliez de Chablis tout à l'heure, la Chablisienne, il y a une vraie dynamique avec des vins de grande qualité. Les vôtres, c'est remarquable. Enfin, faut arrêter, hein, d'avoir une image parfois un peu négative de volume. Volume n'est pas forcément égal avec médiocrité, au contraire. contraire même.
Absolument. Ce qui a initié, c'était une très belle idée, la coopération. Ce qui a initié, c'était la mutualisation des forces et mettre en valeur la communauté pour que ça puisse fonctionner le mieux possible. Dans les années 30, c'est 33 effectivement pourtant, mais il y en a plein qui ont été créés à cette époque-là. C'était une révolution qualitative extrêmement importante, parce qu'il y avait des moyens alors que les gens n'avaient pas les moyens individuellement. Après, il y a eu des hauts, des bas, enfin, etc. Et ces dernières années, on voit poindre et l'exemple de Chablis, l'exemple de certaines caves en Alsace, l'exemple de la cave de Saint-Cyr en Bourg dans la Loire, etc. Il y a dans chaque, ou de Limoux, dont on a parlé, des Sœurs d'Arc, etc., et la cave de Tain-l'Hermitage font partie un peu des fleurons de la coopération et produisent des vins de grande qualité. Il ne faut pas oublier que les coopérateurs, ce n'est pas des gens qui viennent fourguer le raisin qui font pas eux. Il y a des cahiers des charges précis. On valorise aussi la qualité de la récolte. Et puis, ce sont des vignerons, avant tout, qui effectivement travaillent, même si certains peuvent partager, ça dépend des statuts des caves coopératives. Il faut être 100% apporteur, parce que sinon on ne peut pas rentrer à la coopération. D'autres, on peut garder une partie pour soi. Mais dans tous les cas de figure, il y a une vraie motivation pour un certain nombre de caves, dont celle de
Hélène, on parle un peu du vin, des vins.
On parle un peu du vin, bien sûr. Alors, effectivement, on va dire des vins, parce qu'il y en a tellement chez vous. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire qu'on commence par la cuvée phare Gambert de Loche, ou est-ce qu'il y a d'autres gammes que vous voulez aborder en premier? Il y a tellement de choses chez vous.
Non, oui, on a plein de choses, parce qu'en effet, c'est ça la richesse de la coopérative, comme Philippe vient de le mentionner. Puis, comme je vous ai dit, 1055 hectares pour 260 vignerons, ça ne fait pas beaucoup d'hectares par vigneron, si vous calculez bien. Première chose, là, on a monté un GAV depuis quelques temps maintenant, on a récolté un peu plus d'1 million d'euros, en fait, et ça nous aide à l'installation des jeunes. On parlait des problèmes fonciers, notamment par chez nous. Je prends l'exemple de l'année dernière, voilà, on a aidé à l'installation 4 jeunes. Faut savoir que sur Saint-Joseph, un bon hectare, on va être à 175-220 000 euros. Bon, le jeune, pour vivre, il va lui falloir 3-4 hectares, un peu de matériel, à 23 ans, vous allez à la banque, vous demandez 1 million, c'est pas possible.
Non.
On se porte caution pour lui, et même si le gamin, je veux dire, on va l'aider à planter ses vignes, et ben, dès la première année, il a une rémunération avec nous. Donc bien sûr, il rejoint la cave, et comme tu disais, Philippe, c'est important de le signaler, nous, les coopérateurs de la cave de Tain, nous amènent 100% de leur récolte. Nous revendons ensuite aux négoces, aux amis négociants de
la région. Mais ça, c'est un choix ou c'est une obligation?
Non, c'est une obligation chez lui.
C'est une obligation,
c'est
tout ou rien.
Ça fait partie du cahier des charges.
Ouais. Absolument.
Qui est spécifique à chacune des caves.
Voilà, absolument. Et une grosse partie de leur salaire, c'est de suivre le cahier des charges en fonction du millésime. Cette année, je vous explique pas, ils ont travaillé comme des fous d'arrache-pied. Et la qualité fait un bon tiers de leur salaire. Voilà. Ouais, avec beaucoup, du bon raisin, on fait
c'est
du
motivant.
Bon vin. C'est motivant. Ouais. Et les gars, ils vont bosser.
Bon système, quoi. Merci beaucoup. Merci à David Kélin. Merci également à Hélène Pio, Jean-Luc Coupé, bien sûr, Philippe Fourbac et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. Retrouvez également aujourd'hui sur le site invinoradio.tv, Laure Gasparotto, journaliste au Monde et auteur. Elle nous parlera du vin de demain. On se retrouve samedi prochain, 13h précise, pour un nouveau numéro de Invino Sud Radio chez Nicolas. Ça sera la cave qui a été fondée, vous le savez, en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération.
Sud Radio, Invino.